Bonsoir, comment allez-vous? Alors, vous vous en êtes sorti de votre déclaration d'impôt sur le revenu par Internet? D'entrée de jeu, le formulaire donne le ton. TS. Une TS, c'est une tentative de suicide. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le jargon médical courant. C'est curieux que ça ait été repris par notre cher impôt.gouv.fr. TS. Non, pourquoi ils n'ont pas gardé le mot revenu? C'est eux qui l'avaient trouvé. Mais dès que nous intégrons un mot, aussitôt, on le change. Il est là, hop, il est plus là. Vous savez comme Ubuntu pour vous embrouiller. Donc, fini revenu, on déclare c'est TS, traitements et salaires. Sur la page d'accueil, il est écrit, je cite, « S'occuper de vos impôts n'aura jamais été aussi facile ». C'est pour ça qu'ils ont mis TS, car c'est le genre d'annonce qui rend dingue. Dire à une personne qui va se lancer dans quelque chose de difficile que c'est facile, c'est lui dire qu'elle est nulle, au lieu de lui dire qu'elle est courageuse et intelligente. Traverser la Manche à la nage, mais c'est facile, vas-y, plonge, mais vas-y, tu risques rien. Si tu peines, t'as qu'à appeler. Désolé, toutes nos lignes sont occupées, veuillez rappeler ultérieurement. Bien sûr que c'est facile pour certains, pour beaucoup même, comme le chinois, pour des millions de chinois. Attention, ce n'est pas parce que certains s'y retrouvent que d'autres, muets et honteux, ne s'y perdent pas gravement.
Bonjour, je m'appelle Maë, j'ai 7 ans. Est-ce que je pourrais savoir comment les animaux retrouvent leur chemin? Merci.
Ça, c'est un grand mystère, Noreen Chai. Vous êtes le vétérinaire en chef de la ménagerie du zoo du Jardin des Plantes à Paris. Et vous avez écrit « Sagesse animale ». Comment les animaux peuvent nous rendre plus humains, édité chez Stock.
Bonjour Maë, merci d'avoir posé cette question. Et très souvent, effectivement, on a l'image du chien qui est perdu à 200, 300 km et qui retrouve sa maison. Eh bien, je vais décevoir, mais c'est un mythe.
Ah bon?
Il est vrai que les chiens et chats peuvent retrouver leur maison à quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres, mais pas à 300 kilomètres.
Bah, alors, 10 kilomètres, c'est déjà génial.
C'est déjà génial. Alors, comment ils font? Déjà, on pense souvent à l'odorat, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la mémoire visuelle. Si vous avez, par exemple, un chien qui est perdu au bout de 10 kilomètres en forêt, il va repérer les différents chemins. Donc c'est assez tracé, donc c'est assez facile. Mais si vous le mettez en ville, avec plein d'odeurs différentes et plein de dédales de rue, il va plus facilement, effectivement, se perdre. Donc il y a cette notion d'odorat visuel, mais aussi, on a découvert récemment qu'il pouvait ressentir le champ magnétique. Donc ça, c'est tout nouveau. Donc avec ces trois paramètres, les chiens peuvent se repérer et retrouver leur chemin, mais pas à 500 kilomètres. Alors attention, là je te parle du chien et des chats. Il y a d'autres animaux qui ont en revanche, eux, des capacités extraordinaires pour repérer leur chemin. On pense bien sûr aux abeilles qui arrivent avec l'orientation du soleil à se repérer et retrouver leur nid, leur ruche en l'occurrence. Et les baleines, par exemple, les baleines qui migrent à des millions qui migrent à des milliers de kilomètres, arrivent à retrouver leur chemin grâce au champ magnétique également, comme les tortues marines.
D'accord, oui, parce que dans la mer, j'allais dire, elles peuvent pas dire, il y avait un gros chêne.
Non, dans la mer, là, il y a quasiment aucun repère, et c'est grâce au champ magnétique que les tortues marines et les baleines arrivent à retrouver leur chemin. Alors, il y a un truc plus drôle, c'est les fourmis. Comment elles arrivent à retrouver leur fourmilière? Eh bien, en fait, elles comptent leurs pas. Elles comptent leurs pas.
Vous vous foutez de moi?
Non, elles ont vraiment une... Donc ça a été démontré. Elles comptent le nombre de pas. Et alors, comment on a su ça? On a mis des échasses sur certaines fourmis. Donc, on a modifié leur enjambement. Et lorsqu'on a modifié leur enjambement, elles se sont perdues. Donc, du coup, on a modifié le calcul de leurs pas. Elles intègrent, en fait, le trajet, leur pas qui est calculé, pour retrouver leur chemin. Mais elles ne font pas que ça. Ces petites fourmis qui ont seulement 1 million de neurones, elles ont aussi la capacité de reconnaître et de mémoriser leur environnement. Il y a une vision.
Mais qu'est-ce qu'elle voit, la fourmi?
Elle voit des formes, effectivement, qui leur permettent de se repérer. Donc, avec le nombre de pas, la vision, elles arrivent justement à retrouver leur fourmilière.
Et alors les fameux oiseaux migrateurs?
Les migrateurs, eux, c'est assez complexe. Il y a l'orientation du soleil, l'orientation de la lune, le champ magnétique, la mémorisation visuelle. Donc c'est tout un amalgame, toute une agrégation en fait de compétences, de facultés cognitives qui permettent de justement les diriger, les oiseaux migrateurs.
D'accord.
Les pigeons voyageurs, c'est encore autre chose.
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
En fait, on ne sait pas comment ils font. On a fait plusieurs expériences. On a mis un GPS. On les a bandés les yeux. On les a mis dans des cages. On ne sait pas comment le pigeon voyageur arrive à trouver son trajet.
On pourra peut-être filer notre déclaration à un pigeon, non? On aurait plus de chances de s'en sortir. Merci Noreen Shai, c'est absolument étonnant. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, vous avez demandé pourquoi nous sommes gentils et méchants à la fois, comment nous pouvons savoir si l'eau est potable ou pas, et quand Jésus est né, après on a décidé de repartir en l'an zéro, et quel an était-ce avant? Et là, maintenant, je vous pose, moi, à mon tour, une petite question. Savez-vous ce qu'est l'onychotylomanie en 14 lettres?
Je suis encore Valentin Reyes, j'ai encore 9 ans et demi, et je voudrais savoir pourquoi il y en a des fois qui rougent ses ongles. Merci de me répondre encore une nouvelle fois. Merci.
Bonsoir Valentin, ronge. Alors, propos de répétition, il y en a beaucoup qui se rongent les ongles, petits et grands. Docteur Sophie Gottman, vous avez écrit justement « Vos ongles, tout un monde », c'est édité chez Actes Sud. Le sait-on seulement pourquoi on se ronge les ongles ?
Se ronger les ongles est un tic, une habitude, une manie, plus ou moins consciente, qui est très fréquente. On estime pratiquement à 30% pourcentage de gens qui agacent au moins un peu leurs ongles. Les enfants se rongent plutôt les ongles. Les adultes les agacent plutôt avec leurs doigts, les abîment, les frottent, les grattent. Les dépiotes, ouais. Exactement, c'est un bon terme. L'onychophagie, ça peut toucher jusqu'à 30% des enfants entre 7 à 10 ans et jusqu'à 45% des enfants entre 10 à 15 ans. Vous voyez comme c'est fréquent? C'est encore très fréquent chez les étudiants qui, là, pour le coup, deviennent gênés. Par contre, les adultes passent plutôt à des tics avec leurs autres doigts, qu'on appelle onychotylomanie, la manie de s'arracher les ongles. Chez l'enfant, c'est bénin, c'est souvent transitoire. Réprimander n'est pas efficace. Les vernis amers, souvent, on abandonne parce qu'il faut en mettre une ou deux fois par jour, c'est contraignant.
Dormir avec des gants.
Non, mais le plus souvent, ça passe spontanément. Il n'y a que dans les formes très sévères qu'il faut consulter, ou éventuellement un traitement médicamenteux peut être indiqué, ou une consultation pour un traitement comportementaliste peut être indiquée. Mais le plus souvent, ces manies sont peu importantes et elles sont transitoires, et elles guérissent spontanément, et en général, il n'y a pas de séquelles. Il faut vraiment s'être rongé les ongles très très courts et pendant des années pour avoir des séquelles. Avec un lit de l'ongle plus court, un ongle qui se décolle plus tôt. En général, ça rétrocède sans séquelles. Donc il faut vraiment souffler.
Se décontracter là-dessus.
Chez l'adulte, il faut se méfier d'une petite chose. Certaines personnes arrêtent de fumer. Et parfois, ensuite, elles ont un tic. Elles agacent leurs ongles. Eh bien, il faut aussi savoir respecter, pas être trop exigeant avec soi-même.
Voilà une belle parole de sagesse donnée par le docteur Sophie Gottman. On pourrait peut-être dire, peut-être plus aux enfants qu'aux adultes qui se rongent les ongles, que les ongles, ça sert à griffer. Bah, c'est pas que je sois ténueuse, mais quand même, il faut pouvoir se défendre dans la vie. Donc c'est pas mal de pouvoir griffer. Dans la famille, chez Dite, je demande le fils, enfin le fils de Louis, ou le petit-fils d'André.
Faut que je passe dans ta radio, si loin de tes yeux, de ton univers. Quelque part sur cette terre, je cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. Faut que je passe. De ce tube FM éphémère, dans mon cœur tu captes les moindres fréquences, malgré nos histoires, nos distances. Je passe.
Dans ta radio, vous aviez reconnu la voix de M.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe de l'émission, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des savants pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Maëlle, j'ai 8 ans et je voudrais savoir, quand Jésus est né, après on a décidé de repartir à l'an zéro, quel an c'était avant ?
Bonsoir Maëlle. C'est intéressant ce questionnement d'an zéro, ce qui précédait l'an zéro, peut-être qui a décidé que c'était l'an zéro. C'est votre métier, Denis Savoie, vous êtes un scientifique et un historien des sciences. C'est assez compliqué ce que demande Maëlle en fait.
Oui, Maëlle elle pose une question difficile. Il faut que tu saches, Maëlle, que l'ère chrétienne était construite de toutes pièces, artificiellement, au 6e siècle de notre ère. Elle a mis du temps à s'imposer. Et rapidement, effectivement, il a fallu compter les années avant Jésus-Christ. Donc si tu comptes bien, Maëlle, imagine que tu es aux alentours de la naissance du Christ. Tu as 2 après Jésus-Christ, 1 après Jésus-Christ. Et l'année qu'il y a avant 1 après Jésus-Christ, c'est l'année 1 avant Jésus-Christ, puis 2 avant Jésus-Christ, puis 3 avant Jésus-Christ. Mais ce système, il est problématique. Et c'est ce que les astronomes ont toujours su. Et c'est pour ça que, au XVIIIe siècle, un astronome connu, qui s'appelait Jacques Cassini, le fils du directeur de l'Observatoire de Paris, a proposé qu'on introduise l'année zéro pour les calculs. Je vais vous montrer comment ça marche après. Donc il a dit, on va avoir 2 après Jésus-Christ, 1 après Jésus-Christ, 0, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et c'est le même principe que quand on prend une mesure avec une règle. Quand on mesure quelque chose, on mesure depuis le point 0
c'est
de la
juste,
règle. D'accord ?
Bien sûr, oui.
Et ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il y a 2 façons de compter. Celle des chronologistes, on passe de 1 après Jésus-Christ à 1 avant Jésus-Christ. Et celle des astronomes, on passe de 1, 0, moins 1. Application concrète. On sait que Jules César est mort en 44 avant Jésus-Christ. Si on te dit depuis combien d'années est mort Jules César, quel calcul faut-il faire ? Eh bien, il faut savoir que 44 avant Jésus-Christ, ça correspond à moins 43. Donc, ça veut dire c'est 43 plus 2022 pour avoir le bon calcul.
Parce qu'il y a une étape supplémentaire.
Exactement. Et voilà pourquoi l'omission de cet intervalle 0-1 fait que le 21e siècle a commencé en 2001. Et voilà pourquoi le 20e siècle a commencé en 1901. En l'an 2000, nous étions toujours au XXe siècle.
Ça alors, ça fait, je ne veux pas dire mon âge, mais des bons paquets d'années que je me pose cette question. Pourquoi 22, c'est le XXIe siècle ? Pourquoi 2022 est au XXIe siècle ?
Eh bien voilà, c'est parce que les siècles, c'est une introduction assez tardive, mais le siècle commence en 2001.
C'est pas évident, hein, ces histoires d'intervalles. Vous pouvez réécouter cette question par franceinter.fr à la page des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Nino, j'ai 8 ans et je voudrais savoir comment nous pouvons savoir si l'eau est potable ou pas. Merci de me répondre. Au revoir.
Merci pour ta question, Nino. Nous la proposons, tu l'imagines, à une experte en traitement de l'eau, Sophie Bénaud.
Bonsoir Nino, merci pour ta question. Effectivement, c'est une très bonne question. Comment on peut savoir si l'eau est potable ou pas ? Alors déjà, il faut savoir qu'en regardant l'eau et en la goûtant, on peut pas savoir si elle est potable ou pas. Nous, pour savoir si elle est potable, on fait des tests, des mesures. Alors il y a 2 critères qui définissent si l'eau est bonne à boire. C'est si elle est bonne en qualité physico-chimique et si elle est bonne en qualité bactériologique. Donc physico-chimique, ça veut dire qu'elle n'a pas d'éléments de produits chimiques, on va dire, qui pourraient nous rendre malades sur le long terme. Et bactériologique, ça veut dire qu'elle n'a pas de virus et pas de bactéries qui pourraient nous rendre malades ou causer des diarrhées, par exemple. Et ça, pour le savoir, il faut mesurer en laboratoire. Les traiteurs d'eau, les gens qui produisent l'eau dans les stations de traitement de l'eau, font des prélèvements réguliers et ils les envoient au laboratoire à analyser pour savoir si elle est de bonne qualité.
Comment vous faites? Est-ce que ça dure longtemps? Si moi j'envoie un verre d'eau au laboratoire, j'ai une source dans mon jardin, j'aimerais savoir si elle est potable ou pas. Imaginons, je ne sais pas si j'ai le droit, mais imaginons que j'ai le droit. Et donc je vous envoie un verre d'eau dans votre laboratoire et vous prendrez combien de temps et vous ferez comment?
Alors c'est des analyses qui sont faites sur des appareils. Les analyses physico-chimiques, c'est des, par exemple en chromatographie ou ce genre de choses.
C'est-à-dire avec des couleurs
rapides.
Avec des couleurs?
Non, c'est pas avec des couleurs. On cherche les éléments qu'il y a dans l'eau, en fait. On cherche à voir s'il y a des éléments qui sont dissous dans l'eau. Et ça, c'est assez rapide, on peut le faire sur la journée. Par contre, le côté bactériologique, c'est un petit peu plus long, parce que pour voir s'il y a des bactéries ou des virus, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Donc en fait, on va les faire se développer, on va les faire pousser dans des boîtes de pétri, c'est des petites boîtes en verre. On les met dans un milieu de culture dans lequel elles vont se sentir bien, et on va les faire pousser. Et forcément, pour les faire pousser, ça met un peu de temps, donc en général, ça met 3 à 5 jours pour avoir le résultat sur la qualité bactériologique. Mais aujourd'hui, c'est très bien parce qu'on a une nouvelle technique qui nous permet de savoir en 5 minutes si jamais l'eau est de bonne qualité bactériologique ou pas. Ça s'appelle l'ATP-métrie. Alors, l'ATP, c'est en fait le carburant des cellules. C'est ce qui fait qu'elles vont bien fonctionner. Donc, toute cellule vivante a de l'ATP. Et des chercheurs ont développé une nouvelle technique qui permet de mesurer la concentration d'ATP dans l'eau. Et on sait que si on a de l'ATP, c'est qu'on a de la vie, donc des virus et des bactéries, ce qu'on ne veut pas avoir dans l'eau. Plus on a d'ATP, plus on a de virus et de bactéries, donc l'eau n'est pas de bonne qualité. Comment on fait pour mesurer l'ATP? On utilise une enzyme qui s'appelle la luciférase, qui est une enzyme de luciole, qui va en fait, en présence d'ATP, produire de la photoluminescence. Et ensuite, on va mesurer avec un photomètre qui mesure les émissions de lumière, s'il y a beaucoup de lumière émise ou pas. Alors, ce n'est pas de la lumière qu'on voit à l'œil nu, c'est seulement la machine qui le voit. Et plus il y a de lumière émise, plus il y a d'ATP, donc plus il y a de bactéries et de virus, et ce n'est pas bon. Et cette technique-là, on peut l'utiliser sur site, directement, par exemple, au niveau d'un château d'eau, on peut faire un prélèvement, et on met 5 minutes pour avoir le résultat.
C'est quand vous dites récent, ça veut dire quoi, 10 ans
ou... Non, c'est moins de 10 ans. C'est une technique qui a été développée à la base pour mesurer l'eau, la qualité de l'eau dans la Station Spatiale Internationale.
Vous évoquez le voyage, Sophie Bénaud. Finalement, quand une eau est décidée potable, un jour à une heure, dites... Elle reste potable pendant combien de temps?
Alors effectivement, pour qu'elle reste potable, il faut éviter qu'elle se recontamine, puisque même quand elle est potable et qu'elle a très très peu de virus et de bactéries, les virus et les bactéries, ils se multiplient, ils se développent. Et donc du coup, si jamais on n'a pas quelque chose qui les empêche de se multiplier, on peut avoir effectivement une eau qui est non potable après. Et c'est pour ça qu'on a du chlore dans l'eau. Le chlore va les empêcher de se développer.
Donc un, il faut qu'elle soit potable, et deux, il faut qu'elle le reste.
Exactement.
Vous écoutez Les Petits Bateaux sur France Inter. Pour poser une question, eh bien vous pouvez faire le 01 56 40 43 57. C'était Janis Joplin. Vous savez que Janis Joplin est morte à 27 ans. Elle fait partie de ce club des 27 où il y avait entre autres Jimi Hendrix et Jim Morrison. Otis Redding, il avait même pas 27 ans, il avait 26 ans. J'ai lu quelque chose d'affreux à propos de Janis Joplin. Elle était un peu boulotte à la fin de son adolescence, elle avait de l'acné. Et elle a fait un court passage à l'université où elle avait été élue le garçon le plus laid du campus. C'est juste méchant.
Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 8 ans et je voulais savoir pourquoi nous sommes gentils et à la fois méchants. Merci, au revoir.
Bonsoir Emma, c'est Charles Pépin qui va te répondre. Charles Pépin, qui est agrégé de philosophie, qui va te répondre. Alors pourquoi nous sommes gentils et méchants à la fois, dit Emma.
Alors quelle question Emma, si je le savais, il y a deux difficultés à essayer d'expliquer et à essayer d'accepter cette ambivalence. D'abord, essayons d'expliquer. On a une explication évolutionniste darwinienne qui viserait à dire, par exemple, que on est gentil et méchant à la fois parce que dans l'évolution, on a eu besoin d'être gentil et besoin d'être méchant. Être méchant, être agressif dans la lutte pour la survie, être gentil, se faire des alliés qui nous protègent. Il y aurait une autre explication qui viserait à dire, par exemple, que on est gentil et méchant à la fois parce qu'on était d'abord l'un et qu'on a dû devenir l'autre. C'est par exemple la thèse bien connue de Rousseau, qui pense que l'homme est naturellement gentil, c'est un bon sauvage, qu'il a un sentiment de pitié originelle, et puis que la civilisation le force à devenir méchant, jaloux, envieux, et que donc au final, il est les deux. Ou alors, réponse inverse, on est d'abord méchant, c'est ce que pense Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, il est d'abord agressif, mais on est forcé à devenir un peu gentil, un peu sociable, un peu légaliste, par le progrès de la civilisation, donc au final, on est encore les deux. Et puis, on se rend bien compte que quand on essaye d'expliquer ça comme ça, c'est pas très satisfaisant. Qu'en vérité, on est peut-être en train de nommer gentillesse ou méchanceté des choses qu'on nomme ainsi, mais qui en vérité sont la même chose. C'est ça qui est intéressant. Si on écoute par exemple la psychanalyse freudienne ou lacanienne, on apprend que à l'origine de la vie, il y a des pulsions de vie, des pulsions agressives, et ensuite, dans la civilisation, ça va donner ce qu'on appellera la gentillesse ou ce qu'on appellera la méchanceté. Mais c'est l'esprit humain qui sépare les choses ainsi. C'est aussi le langage qui les sépare ainsi. Mais peut-être qu'il y a une vérité de la vie originelle qui est en deçà de ce qu'on appelle, nous, gentillesse ou méchanceté. Quelque chose comme une énergie vitale qui change de nom selon les philosophes. Pour Freud, c'est la libido. Pour Nietzsche, c'est la volonté de puissance. Pour Schopenhauer, c'est le vouloir vivre. Peu importe. Des choses qui sont ni gentilles ni méchantes, ni bien ni mal, ni bonnes ni mauvaises, qui sont avant cela, mais qui sont déjà notre vie. Et c'est là que on peut essayer de répondre plus simplement encore, sans aller chercher dans l'origine de l'espèce humaine l'explication ou l'éclairage, mais dans l'origine de la vie de chacun. C'est qu'on a été aimé par des parents, peut-être d'un amour ambivalent. Alors on est fait de cette ambivalence-là. On sait bien qu'il y a des mères, des pères qui aiment leurs enfants, vraiment, et qui aussi parfois sont jaloux et leur veulent un peu de mal. Ou alors à l'inverse, qu'il y a carrément des parents qui ont un problème à être parents, qui sont en quelque sorte d'abord méchants, qui sont en rivalité. Mais dans cette méchanceté perce, jaillit de l'amour. Et on est fait de ces peines étranges et de ces joies étranges, on est fait de ce mélange. Alors on est mélangé parce qu'on est fait par ce mélange. Si on remonte un peu, on pourrait aussi remonter au désir d'enfant, dont parfois on est le fruit. Est-ce que ce désir d'enfant était purement gentil? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà un peu d'ambivalence en son sein? Alors je crois que, une fois que j'ai dit tout ça, il faut quand même expliquer que c'est très difficile à accepter, cette ambivalence, parce que notre pensée et notre langage humain sont faits pour séparer les choses, pour classifier dans des catégories, alors que peut-être la vérité de la vie, c'est ce mélange et cette ambivalence.
Charles Pépin a écrit l'été dernier « Une semaine de philosophie, les bases de la philo en 7 jours » et c'est chez J'ai lu. Et puis cet hiver, il a écrit « La planète des sages intégrale » et c'est chez Dargaud. Alors puisque nous parlons de livres, connaissez-vous la collection « Papy est un super menteur » chez Pocket Jeunesse? L'auteur Grégory Nicolas est un ancien professeur des écoles. C'est vraiment un pédagogue. Dommage pour ses élèves qu'il ait arrêté. Voilà 10 ans qu'il écrit des livres et cette collection nous parle d'histoire. Est déjà paru le super copain de Louis XIV, le super chevalier, et là, je viens de lire la super prise de la Bastille. C'est génial. Il y a l'ambiance grâce à Papy qui raconte qu'il y était et c'est une bonne idée, ce récit à la première personne. Car Papy n'est pas un mytho, il est un pédago. Et il raconte effectivement comme s'il y était, et nous y sommes aussi, du coup, le fameux du coup. Il explique simplement les choses, même des choses compliquées. Par exemple, comment a démarré la Révolution française. Je vous lis un extrait, page 27. La France était divisée en 3 équipes. On dit en
trois ordres. L'équipe des Bleus s'appelait la noblesse. Dans cette équipe, il y avait les comtes et les comtesses, les ducs et les duchesses, les marquises et les marquises, et bien entendu, les princes et les princesses. Le capitaine de cette équipe, on peut dire que c'était le roi Louis XVI. Après, il y avait l'équipe des Blancs, qu'on appelait le clergé. Dans cette équipe, il y avait les curés, les évêques, les moines et les bonnes sœurs. Eux, leur capitaine, c'était Dieu, excusez du peu. Enfin, restait la troisième équipe, celle des Rouges. On l'appelait le tiers-état. En gros, dans cette équipe, il y avait tout le reste des habitants du royaume. Les paysans, les marins, les ouvriers, les commerçants, les artisans, les sans-travail. C'était une équipe gigantesque, l'équipe des Rouges. Ils étaient ultra, méga, giga nombreux. Je ne crois pas qu'ils avaient un capitaine. Voilà, papy menteur, papy est un super menteur, la super prise de la Bastille, et c'est édité chez Pocket Jeunesse, ça vaut 5,95€. Podcasté, mes amis, ces petits bateaux grâce à l'application Radio France. Benjamin Troncin, Marjorie Devoucoux, Jean-Baptiste Audibert et Noël Bréham, nous ne vous donnons pas rendez-vous sur l'antenne de France Inter dimanche prochain ni celui d'après. L'antenne sera consacrée aux élections législatives. Vous pourrez écouter les petits bateaux grâce à franceinter.fr.